Cela fait tout juste un mois que le peuple est sorti d'Égypte quand il arrive dans le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, après avoir quitté Mara. Mara, vous vous en souvenez, où Dieu a adouci des eaux amères. C'est ce que nous avons considéré la dernière fois. Il s'en est passé des choses en un mois. Le peuple a connu le yo-yo émotionnel à plusieurs reprises. Il a fait des allers-retours entre l'euphorie et l'angoisse et la peur, en passant certainement par tous les stades intermédiaires. Et c'est ainsi que se sont succédés des temps de joie et de confiance, et des temps d'inquiétude, d'incompréhension et de doute, souvent accompagnés de plaintes et de murmures. Tout ce que le peuple a vécu, toutes les émotions qu'il a ressenties, nous pouvons très bien les comprendre. Rien d'anormal, que de l'humain. Nous l'avons déjà souligné dans des volets précédents, le peuple est parti dans la précipitation. Il n'a donc pas eu le temps de faire des provisions. Alors, on va trouver les diapositives. Pas le temps de faire des provisions, du moins rien de conséquent. On revient un tout petit peu en arrière au chapitre 12, versets 37 à 39. Les Israélites partirent de Ramsès pour Soukhot, une infanterie d'environ 600 000 hommes, sans compter les familles. Une importante population mêlée monta aussi avec eux, avec des troupeaux considérables, de petits bétails et de gros bétails. Ils firent des galettes cuites sans pain, sans levain, pardon, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder pour se faire des provisions. Sans pouvoir s'attarder pour se faire des provisions. Peu de provisions, donc. Mais quand ils ont manqué d'eau, Dieu a pourvu. Mais voilà maintenant que la nourriture, elle aussi, commence à manquer, à faire défaut. Que va faire Dieu? N'est-ce pas lui qui les a conduits dans ce désert? N'est-ce pas lui qui a promis de prendre soin d'eux? Bien sûr, il y a les troupeaux considérables, de petits et de gros bétails, que le peuple a pris avec lui en quittant l'Égypte, comme nous venons de le lire. Mais la situation est certainement critique. Depuis un mois, le cheptel a été certainement déjà bien entamé. Les réserves qu'ils avaient, le peu de réserves, doivent être épuisées. Les forces bien diminuées. Le peuple est nombreux. Il commence à ressentir la faim. Et avec la faim, ressurgissent les murmures. Je vous invite à lire le passage qui va servir de base à notre méditation. Ce matin, nous sommes au chapitre 16 du livre de l'Exode et je commence au verset 1. Exode 16, verset 1. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du deuxième mois à compter de leur sortie d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites se mit à maugréer dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, c'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert. » Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis le ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura deux fois plus que ce qu'ils recueillent jour après jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire du Seigneur. Parce qu'il vous a entendu maugréer contre le Seigneur, nous en effet, que sommes-nous pour que vous maugréiez contre nous ?» Moïse dit, « Le Seigneur vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Le Seigneur vous a entendu maugréer contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que vous maugréez, c'est contre le Seigneur. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute la communauté des Israélites, présentez-vous devant le Seigneur, car il vous a entendu maugréer. » Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent vers le désert et la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les Israélites maugréer, dis-leur, à la tombée du soir vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasirez de pain. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Voici ce que le Seigneur a ordonné, que chacun en recueille ce dont il a besoin, un homère par tête, selon le nombre de personnes à nourrir. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce dont il avait besoin. » Et encore trois versets à la fin du chapitre, la maison, au verset 31, « La maison d'Israël appela le nom de manne cette nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche, elle avait le goût d'un gâteau au miel. Les Israélites en ont mangé la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite de Canaan. » L'homère, c'est le dixième de l'épha. Le peuple a donc faim. Et que fait-il ? Il murmure. Il maugrée. Il râle. Les ancêtres des Gaulois sont les Hébreux. Verset 3, les Israélites leur dirent, « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, c'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans le désert. » La peur les avait fait murmurer devant l'obstacle de la mer, alors que l'armée de Pharaon approchait. La soif les avait fait murmurer, alors que les jours sans eau se renouvelaient, que la mort approchait, et que les eaux providentielles de Mara s'étaient avérées imbuvables. C'est maintenant la fin qui les amène à nouveau à se plaindre. C'est souvent face à nos limites et dans les situations extrêmes qui les ont révélées que nous avons tendance à nous plaindre. C'est c'est la faim qui les fait murmurer. La faim associée au souvenir des bonnes choses qu'ils mangeaient en Égypte. Les marmites de viande, le pain à satiété. Et dans le livre des Nombres, nous trouvons un autre épisode, hein, beaucoup plus tard dans l'histoire du peuple dans le désert, où il est aussi question de nourriture et où le peuple râle encore, à nouveau. Et là, ils murmurent en pensant à tout ce qu'ils avaient en Égypte. Et puis, ils murmurent parce qu'il en a assez de la manne. Donc, ça vient un peu plus tard. Nombre, chapitre 11, versets 4 et 5. Le ramassis de gens qui se trouvaient au sein d'Israël fut rempli de désirs, et les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Ils disaient, « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Faire mémoire des bienfaits de Dieu, c'est bien. C'est important, on l'a rappelé les dernières fois. Mais faire mémoire peut nous amener sur le terrain glissant de la comparaison qui nous mène directement et rapidement au murmure. Il faut donc être vigilant quand nous faisons mémoire. Dieu a entendu les murmures du peuple. Les murmures que le peuple adresse contre Moïse et Aaron, verset 2, nous l'avons lu. Pourtant, le texte dit que c'est en réalité contre Dieu que le peuple murmure. Nous revenons un petit peu en arrière, chapitre 6, versets 6 à 8. À trois reprises dans ces versets, il est question de maugréer, de se plaindre contre le Seigneur, non pas contre Moïse et Aaron, mais contre le Seigneur. Les plaintes du peuple sont contre Dieu. Alors bien sûr, Moïse et Aaron sont en première ligne et ils font paratonnerre. Mais c'est Dieu qui est visé. Maugréer contre Moïse et Aaron, c'est une façon détournée, une façon voilée, indirecte, de râler contre Dieu. C'est vraiment Dieu qui les a conduits dans le désert. Pas Moïse, ni Aaron. Le peuple murmure contre Dieu et pourtant Dieu va les nourrir. Dieu va subvenir à leurs besoins. Nous sommes loin ici de l'image qu'en font certains d'un Dieu père fouettard, d'un Dieu qui n'attend qu'un faux pas de notre part pour nous tomber dessus, d'un Dieu vengeur qui est là à espérer l'écart de conduite pour pouvoir juger, pour pouvoir remettre à sa place. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, le Dieu Père de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, notre Dieu est un Dieu plein de patience pour son peuple, même si sa patience a des limites, un Dieu plein d'amour et de bonté, un Dieu plein de miséricorde et de grâce. Et alors même que le peuple rouspète, râle, murmure, pleure contre Dieu, Dieu va lui donner des cailles et de la manne. De la manne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la question que le peuple pose au verset 15. Quand il découvre le matin cette substance sur le sol, la première fois avec la rosée. Je l'ai souligné. Qu'est-ce que c'est ? Verset 15. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. En hébreu, qu'est-ce que c'est ? Ça se dit manhu. Je le prononce peut-être pas très bien, mais manhu. Et c'est certainement, en tout cas c'est la théorie la plus avancée, c'est certainement cette question qui est à la base du nom que le peuple va donner à cette substance, un petit peu plus loin au verset 31, la maison d'Israël appela du nom de man, cette nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Manhu, man, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Dieu va donner, faire pleuvoir, littéralement, pour le peuple, ce pain du ciel. C'est comme ça, pain du ciel, que la manne est désignée au verset 4. Une appellation d'ailleurs qu'on va retrouver ailleurs dans l'Écriture, qu'on va retrouver à quelques reprises dans les psaumes, et puis surtout qui va être reprise par le Seigneur Jésus lui-même dans Jean 6, et nous y viendrons dans quelques instants. La description de cette manne nous est donnée au verset 14. « Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. » Et puis, plus loin, nous l'avons lu aussi, nous apprenons que ça ressemble à de la graine de coriandre, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, et puis que ça avait le goût d'un gâteau au miel. Par contre, il fallait se dépêcher de la ramasser parce que dès que le soleil se levait, cette manne s'évaporait, disparaissait, fondait. Il fallait donc se lever de bon matin, avant le lever du soleil, pour cueillir la manne. Une des précisions importantes du texte concerne justement son ramassage. Chacun devait cueillir seulement la quantité nécessaire à ses propres besoins ou aux besoins de ceux de sa tente. Donc tout le monde n'allait pas forcément ramasser, mais celui qui ramassait, ramassait la quantité pour chacun. Il ne fallait pas faire de provisions, il ne fallait pas en garder pour le lendemain. Pourtant, c'est ce que le peuple a tout de suite essayé de faire, tout de suite. Et ça nous est rapporté au verset 19 et 20 que nous n'avons pas lu et que je lis maintenant. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Il s'y mit des vers et cela devint une puanteur. Il s'y mit des vers et cela devint une puanteur. Il ne fallait donc pas en conserver. Et d'ailleurs, ce qui se conservait, ce qui était conservé, ne se gardait pas. Pourtant, il y a deux exceptions à cette règle de la non-conservation de la manne. La première concernait le sabbat. Le sabbat dont il est fait question, dont il est fait mention au verset 23. Je relis quelques versets ici. Le sixième jour, ils en recueillirent le double, deux homères pour chacun. Tous les princes de la communauté vinrent le dire à Moïse. Moïse leur répondit, c'est ce que le Seigneur a dit. Demain, c'est un repos sabbatique. Un sabbat consacré au Seigneur, faites cuire, etc. Et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas une puanteur, on n'y trouva pas de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est un sabbat pour le Seigneur. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en recueillerez, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y en aura pas. Nous avons ici la première mention du sabbat dans la Bible, au verset 23. La notion du sabbat existe depuis la création, mais c'est la première fois que le mot apparaît. Il y a débat pour savoir est-ce que le peuple pratiquait déjà une certaine forme de sabbat ou pas. On ne rentre pas dans ces détails maintenant. En tout cas, c'est la première fois que le mot apparaît. la veille du septième jour, la veille du sabbat, le peuple devait donc cueillir le double, quantité pour le sixième jour et une quantité pour le septième jour. Et cette double quantité allait se conserver d'un jour sur l'autre. Pourquoi ? Parce que conserver cette manne n'était pas à ce moment-là le fait de la désobéissance du peuple, mais celui de son obéissance, au contraire. Nous continuons encore trois versets, à partir du verset 27, le septième jour. Là encore, ils n'ont pas bien écouté. Des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Regardez, si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi au sixième jour de quoi manger pour deux jours. Que chacun de vous reste donc où il est, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. Ainsi, le peuple fit sabbat le septième jour. » Vraisemblablement que Dieu est en train de faire l'éducation du peuple ici en le préparant à la célébration, à la pratique régulière du sabbat qui va venir prochainement avec le don de la loi. Ça, c'est la première exception à la règle. Et la deuxième exception à cette règle de non-conservation, c'est que le peuple devait conserver un homer dans un petit vase, c'est-à-dire la quantité pour une personne, la quantité quotidienne, journalière pour une personne, et ce vase avec cette manne devait être placé devant le Seigneur, comme pour servir de témoignage, dit le texte, c'est le verset 32 et 33, pour les futurs, les générations futures. Un homer, il n'y a pas tout à fait de certitude sur la quantité exacte. Ça varie de 2 litres à peu près à 4 litres et demi. Hein, donc ça vous donne une idée de ce que ça fait par personne. Ça, c'est l'homer dans la Bible sans H. Et puis, il y a une autre mesure avec un H. C'est la même prononciation, mais là, ça fait 220 litres. Donc on n'est vraiment pas dans la même catégorie. En donnant la manne, donc, Dieu a pourvu aux besoins du peuple. Il a pourvu à sa survie, tout simplement. Il a pourvu en le nourrissant avec le pain descendu du ciel. Mais nous l'avons lu, mais je ne reviens pas dessus parce que nous en avons parlé la semaine dernière, le don de la manne est aussi présenté comme une mise à l'épreuve du peuple. Au verset 4, pour voir si oui ou non, le peuple suivrait la loi de Dieu. Et puis c'est une occasion, verset 7, de voir la gloire de Dieu se révéler dans la nuée. C'est une occasion de continuer à comprendre un petit peu mieux qui est Yahvé, le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. On termine ce point sur la description de la manne en indiquant que le peuple va en manger pendant 40 ans, peut-être pas tous les jours, on n'a pas tout à fait de certitude à ce sujet. On sait en tout cas que le don de la manne s'arrêtera lors de la célébration de la première Pâque dans le pays de Canaan, et c'est dans le livre de Josué, au chapitre 5, versets 10 et 12, que nous lisons cela. La manne cessa le lendemain, donc après la célébration de la Pâque, quand ils mangèrent des produits du pays, il n'y eut plus de manne pour les Israélites. Plus besoin de manne, ils étaient dans le pays où coule le lait et le miel. J'aimerais que nous terminions maintenant avec quelques prolongements. Quelques prolongements à ce que nous venons de dire, et le plus évident, bien évidemment, c'est que Jésus est le véritable pain descendu du ciel. La manne de notre texte qui a nourri le peuple de Dieu est une préfiguration de ce que Jésus allait être et de ce que Jésus allait faire pour les siens. C'est lui le vrai pain qui descend du ciel. Et d'ailleurs, Jésus va le dire exactement comme ça dans Jean chapitre 6. Je commence à lire au verset 30, ils lui dirent, « Alors, quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et pour que nous te croyions ?» Jésus est pris à partie. « Quelle œuvre fais-tu ?» Et là, on va chercher une histoire de l'Ancien Testament. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Et on saute quelques versets, toujours au chapitre 6, à partir du verset 47. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. » Aussi extraordinaire qu'a été la manne dans le désert, c'était incroyable. Ce n'est pas grand-chose comparé au vrai pain descendu du ciel. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit, les Israélites en ont mangé, mais ils sont morts. Ça les a aidés physiquement, bien sûr, ça les a nourris physiquement, c'est important. Mais celui qui se nourrit de Jésus, du vrai pain descendu du ciel, et il faut comprendre, celui qui met sa foi en Jésus pour son salut vivra éternellement. La différence est énorme. Il n'aura plus jamais faim, dit Jésus, car Jésus rassasie parfaitement quiconque vient à lui en lui donnant la vie éternelle. Le deuxième prolongement que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, c'est important de manger du pain, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, c'est d'abord Jésus, le Verbe incarné, la parole faite chair, le vrai pain descendu du ciel, le pain de vie. Mais c'est aussi la parole écrite, la Bible qui contient, qui est la parole de Dieu, la parole du Christ, la parole de Dieu qui nourrit notre âme, qui nous nourrit spirituellement en nous communiquant la volonté de Dieu. Avant de pouvoir manger la manne, le peuple devait faire toute une série de choses. Il ne la ramassait pas, il la mangeait comme ça. Ce n'était pas possible. Il fallait se lever tôt, il fallait la ramasser. Il n'y avait pas de lampe de poche à l'époque. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais il fallait le faire rapidement avant que le soleil ne se lève, puisqu'après elle disparaissait. Ensuite, il fallait la moudre. Ensuite, on en faisait une pâte et on la cuisait et après, on pouvait manger. Pour nourrir, pour nous nourrir de la parole de Dieu, il y a aussi des efforts à faire. Ça ne se fait pas tout seul. La parole se lit, la parole s'étudie, la parole se médite, elle se rumine, on y vient, on y revient. la parole, l'assimilation de la parole ne se fait pas toute seule comme par enchantement. Hein, je touche la Bible et puis il y a une espèce de transfert, ça ne marche pas comme ça. Je dois le vouloir. Je dois le programmer dans ma journée. Je dois m'y atteler le moment venu. Se nourrir de la parole demande des efforts, du temps, de la volonté, de la discipline, de la diligence, de la persévérance. Et puis, nos réserves ne suffisent pas. Dans les parallèles que nous pouvons faire avec notre texte, nous devons dire ici que vivre uniquement sur nos réserves, sur les réserves de la parole que nous avons déjà emmagasinées, n'est pas dans la pensée de Dieu pour son peuple. De même qu'il n'était pas possible de conserver la manne d'un jour sur l'autre, sauf pour les exceptions que nous avons vues, il fallait en ramasser chaque matin pour se nourrir. Et ainsi, nous devrions, jour après jour, nous nourrir de cette parole. Ce qui nous nourrit spirituellement, ce sont les repas frais, pas les réserves, qui rapidement s'épuisent et puis s'avarient pour faire le lien avec notre texte. Pourquoi est-ce si difficile de se discipliner à se nourrir de la parole quotidiennement, régulièrement, quand il nous est si facile de prendre du temps pour faire tant d'autres choses? Nous l'avons dit, il y a des efforts à faire. Et l'effort le plus important est certainement celui de lutter contre notre vieille nature, notre nature pécheresse, qui sans cesse essaye de nous faire croire que nous n'en avons pas besoin, que nous pouvons nous en passer, que nous pouvons vivre sur nos réserves. Ça suffit. C'est pas si important que ça, après tout. Il y a tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à lire que sa Bible. Et puis, le sermon du dimanche matin, ça devrait suffire, en tirant un petit peu, en jouant un peu sur les lignes, ça peut suffire peut-être pour toute la semaine. Mes amis, rien n'est plus faux que cela. Si nous voulons grandir spirituellement, nous devons nous nourrir régulièrement. C'est des principes que nous comprenons bien si nous les appliquons au monde physique, aux enfants, aux plantes. Hein, dès qu'on arrose, ça pousse. Si on arrête, ben ça ne pousse plus. Si nous voulons grandir spirituellement, nous devons nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu comme ça. C'est d'une certaine manière le régime alimentaire que Dieu a pourvu pour notre croissance spirituelle. Bien évidemment, il existe toutes sortes d'autres régimes alimentaires pour le spirituel dans le monde, sur le marché. Les poissons, les concombres, les poireaux, les oignons, les ailes d'Égypte nous attirent sans cesse. Mais il y a des choix à faire parmi tous les possibles. Et rien n'est plus facile aujourd'hui que de trouver des choses intéressantes à faire pour occuper son temps. Et du temps, nous en avons plus qu'aucune autre génération avant nous. Ainsi, il nous faut constamment veiller. Veiller à trouver et prendre le temps de nous nourrir spirituellement. Constamment veiller à donner la priorité à la nourriture de la parole. C'est ça qui nourrit notre âme. À la communion avec Jésus, avec la parole faite chair. Veiller à tout cela au risque que notre croissance spirituelle ne se fasse pas, tout simplement, ou ne se fasse pas bien. Au risque de ne pas être en bonne santé, spirituellement parlant, au risque de rester au stade de l'enfance. Paul utilise une image dans les Corinthiens pour parler de ça. Il dit « Continuez à boire du lait et ne jamais passer à la nourriture solide. » Nous avons déjà évoqué la variété des possibles pour se nourrir spirituellement. La manne était pourtant délicieuse. Le texte nous dit qu'elle avait le goût d'un gâteau au miel. C'est pas mal quand même pour quelque chose qui apparaissait comme ça par enchantement. Et pourtant, nous l'avons vu, le peuple s'en est lassé. Nous l'avons vu dans le livre des Nombres, chapitre 11, je ne relis pas, nos yeux ne voient que de la manne. Mais dans ce même livre des Nombres, chapitre 21, nous avons un autre texte encore plus fort, c'est aussi les versets 4 et 5. Ils partirent de hors la montagne par le chemin de la mer des joncs pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert ? Une espèce de rengaine hein, qui revient. Il n'y a ici ni pain ni eau et nous avons pris en horreur. En horreur, ce pain méprisable. C'est la manne. Il est arrivé que le peuple se lasse de cette manne. C'est du pain, hein, du pain, on peut en manger tous les jours. Bon, c'est sûr que par moments, on a envie peut-être d'autre chose, mais ils n'en pouvaient plus. Alors, ils n'ont pas mangé que ça, heureusement, pendant les 40 ans. Hein, on imagine parfois que c'était il y avait que ça. Non, bon, ils avaient des troupeaux et puis ils croisaient des caravanes, ils pouvaient faire des échanges, acheter. Nous avons des textes qui nous disent qu'ils ont acheté, par exemple, aux Édomites, des vivres, etc. Quoi qu'il en soit, il est arrivé que le peuple soit dégoûté de la manne. Et nous devons nous aussi prendre garde à ne pas nous blaser de la parole, à ne pas la snober. On la connaît. Moi, on ne me la fait pas, je suis tombé dedans quand j'étais petit, l'école du dimanche, tout ça. On connaît, on a l'impression de connaître. Attention à ne pas la banaliser comme si ce n'était qu'un livre parmi d'autres. À ne pas nous en lasser comme si quelque chose d'autre pouvait la remplacer. Comme si quelque chose d'autre pouvait véritablement nourrir notre âme. Alors des choses pour la remplacer, il y en a, mais des choses qui nourrissent notre âme. Comme le fait la parole de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien, on peut essayer, on ne trouvera pas. Quelque chose qui est une lampe à notre pied pour nous conduire, qui est une parole de vie pour nous nourrir. C'est la parole de Dieu. Et cette parole est un mets succulent. Vous connaissez le psaume 19 ? Il dit « La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. » Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité. Elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel. Que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. La parole du Seigneur est plus douce que le miel. C'est un mets succulent. Pour qui l'observe, l'avantage est grand. Oui, c'est un mets succulent. Et nous serions mal avisés de nous en priver. Le psalmiste au psaume 119 dit « Je fais mes délices de tes prescriptions ». Et il le répète à 8 reprises. Alors c'est un long psaume, hein, on est d'accord, mais à 8 reprises, il dit « Je fais mes délices ». Pensez à ce que vous aimez le plus et qui est un délice pour vous. après vous le transposez à la parole. Nous chantons parfois « J'ai soif de ta présence ». Nous faisons bien de le chanter. Et nous demandons ainsi à Dieu de mettre sa soif de lui dans notre cœur. Mais qu'en est-il de la faim, F-A-I-M, de la parole? Avons-nous faim de la parole? Nous pouvons demander à Dieu de créer cette faim en nous, et il le fera. Et plus nous nous en nourrirons, plus nous en aurons envie, parce qu'elle est un mets délicieux, un mets succulent, qui nous fait vivre, qui nous rassasie, et qui nous rassasie pour l'éternité. Le dernier aspect de ce que j'aimerais dire, je l'évoque simplement parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, c'est celui du témoignage et de la transmission. Je l'évoque parce que c'est un point important, on aura l'occasion d'en reparler certainement dans les autres prédications sur cette série. Le peuple devait conserver donc cette omer, cette quantité, pour, comme un témoignage pour les générations futures. Et cela nous rappelle que nous aussi, nous avons un devoir de témoignage, un devoir de transmission de la parole. Oui, la parole se reçoit, mais elle ne se garde pas pour soi-même, jalousement, comme si notre vie en dépendait si nous ne la gardions pas comme ça. La parole se reçoit, mais elle se donne aussi. Elle se partage, elle se transmet. Seigneur, nous aide chacun à être non seulement des receveurs de cette parole, d'aller la cueillir, la ramasser, travailler pour nous en nourrir, mais aussi des transmetteurs, de ceux qui la font passer plus loin. Et qui la font passer plus loin pour le bien, pour le salut de celles et ceux qui l'accueilleront dans leur vie. Vous inviter à chanter.